Place au journal des Amériques et d'Haïti, présenté aujourd'hui par Adrien Delgrange. Bonjour Adrien.
Bonjour Gilles Moreau et bonjour à tous. De Paris à Bogota, en passant par Caracas et Montréal, soyez les bienvenus dans votre journal des Amériques. À la une aujourd'hui, la Colombie, où des milliers d'indigènes vont se rendre dans les prochaines heures vers Bogota, la capitale, pour voir leur président. Explication à suivre dans la revue de presse. Dans ce journal également, de nombreux pays du continent américain qui demandent à la Cour pénale internationale d'examiner de possibles crimes contre l'humanité commis au Venezuela par les autorités. Au Brésil aussi, le remplacement d'un juge à la Cour suprême fait polémique. Le juge Celso de Mello tire sa révérence. Nous serons à Sao Paulo. Reportage à suivre aux États-Unis à Louisville. Il y a 7 mois, jour pour jour, une jeune afro-américaine de 26 ans, Breonna Taylor, était abattue dans son appartement par la police. Depuis, nuit et jour, des manifestants campent devant son habitation pour que justice soit faite.
Toutes les vies comptent, mais qu'on a quand même l'impression que nous, les Noirs, on est souvent visés par la brutalité policière, encore et toujours. On est en 2020 et l'impunité continue.
Et c'est un reportage à suivre signé Carlota Morteo.
RFI, as vozes do mundo.
Vous avez feuilleté la presse du continent américain. Bonjour Stéphanie Schuller.
Bonjour Adrien, bonjour à tous.
Et à la une de votre revue de presse, je le disais dans les titres, la Colombie, où des milliers d'indigènes entament ce mercredi une marche vers Bogota, la capitale.
Tout à fait Adrien, la Minga, c'est ainsi que les indigènes appellent leur rassemblement. Quitera Cali, dans le sud-ouest du pays, dans l'après-midi, rapporte le quotidien El País. Les indigènes comptent protester ainsi contre la vague de violence qui fait rage dans leur territoire et contre le non-respect des accords de paix signés en 2016, vous vous souvenez, entre le gouvernement colombien et l'ancienne guérilla des FARC. Ces derniers jours, rappelle encore le journal, le gouvernement conservateur a bien essayé d'endiguer ce nouveau soulèvement des indigènes. Plusieurs ministres ont été envoyés à Cali, mais c'est avec le président lui-même, Iván Duque, que les indigènes veulent discuter en face à face.
Depuis l'arrivée au pouvoir d'Iván Duque en 2018, au moins 167 indigènes ont été assassinés, selon des chiffres de l'Organisation Nationale Indigène de Colombie.
Oui, il s'agit souvent des leaders sociaux. Adrien, dernière victime en date, un ancien dirigeant communautaire et son épouse, assassinés lundi par balle à Suarez, dans l'état du Cauca. Les indigènes vivent dans des zones en proie au cartel de la drogue, mais aussi à la dernière guérilla colombienne ELN. Ils se disent autant victimes du crime organisé que des groupes paramilitaires et officiels, détaille Semana. Pour mettre un terme à ces violences, ils veulent un accord en bonne et due forme avec le gouvernement. Et pour cela, il faut discuter avec le président en personne et donc se rendre à Bogota.
Dans les journaux colombiens également, Stéphanie, comme dans les colonnes d'El Tiempo, il est aussi question de cette mise en garde des autorités qui préviennent. La Minga des indigènes serait infiltrée par des dissidents des FARC.
Eh bien alors, l'éditorialiste du quotidien El Espectador rétorque aujourd'hui que ce n'est pas la première fois qu'on tente de stigmatiser une mobilisation des indigènes en Colombie. À chaque soulèvement, on veut les lier à la guérilla ou aux groupes criminels. Les indigènes, on les regarde d'un mauvais œil, au lieu de les voir comme citoyens colombiens qui ne souhaitent qu'être entendus et surtout affirmer leurs droits, déplore le journal. Pourtant, poursuit El Espectador, les indigènes du sud-ouest de notre pays ont de quoi s'insurger. La situation dans leur territoire est déplorable, le gouvernement y est absent. Et le quotidien de s'adresser au président Duque, commencer par reconnaître l'importance de ces événements dans ces parties du territoire national colombien, en rencontrant les indigènes à Bogota, serait déjà un pas dans la bonne direction.
RFI à Bogota, il est 8h14. La suite à présent de votre revue de presse, Stéphanie, nous emmène au Venezuela, où le gouvernement est mis sous pression par une partie de la communauté internationale.
Oui, le groupe de Lima, composé de pays qui ne reconnaissent pas la légitimité du président Nicolas Maduro, a demandé à la Cour pénale internationale d'ouvrir un examen préliminaire contre le Venezuela pour possibles crimes contre l'humanité, écrit aujourd'hui El Universo. Les 13 pays du continent américain s'appuient sur le rapport présenté, vous savez, en septembre par les enquêteurs de l'ONU, rappelle le journal. Ces enquêteurs ont documenté des crimes coordonnés et commis part avec le soutien direct d'officiers supérieurs et de hauts responsables du gouvernement. Le groupe de Lima réclame donc que les responsables de ces crimes soient traduits en justice et à leur tête, Nicolas Maduro, le président lui-même.
Et puis pour finir, direction le Québec, à Montréal précisément, où les habitants peuvent admirer depuis hier une statue de l'écrivain d'origine haïtienne, Danny Laferrière.
Oui, la sculpture de l'artiste québécois Roger Langevin est exposée dans le jardin de la Grande Bibliothèque. Elle a été baptisée « L'exil vaut le voyage » du nom d'un des romans de Danny Laferrière. Réalisée en résilis, un matériau composite, elle montre l'écrivain et membre de l'Académie française assis en haut d'un escalier, raconte le site web de Radio-Canada. En Haïti, le journal Le Nouvelliste se réjouit bien sûr de l'honneur fait à l'un des écrivains célèbres du pays. Mais cette statue érigée à Montréal nous rappelle aussi que l'immortel Danny n'a pas été célébré dans son propre pays. Haïti préfère les morts, les vivants célèbres sont encombrants, regrette l'éditorialiste Franz Duval avant de conclure. Danny Laferrière, lui, continue de tracer son chemin, de laisser aux générations suivantes les sillons à emprunter pour faire mieux que lui. Déjà immortel, aujourd'hui statifié, Danny Laferrière mérite de la reconnaissance de la nation et de chacun d'entre nous.
Merci Stéphanie. Stéphanie Schuller pour votre revue de presse des Amériques. Une revue de presse à retrouver, à réécouter quand vous voulez sur notre site internet rfi.fr.
Le journal d'Haïti et des Amériques.
Du changement à la tête de la Cour suprême au Brésil, tout comme aux États-Unis, cela crée une polémique. À Brasilia, c'est le départ à la retraite hier de Celso de Mello qui provoque de fortes réactions et quelques appréhensions. Correspondance à Sao Paulo de Martin Bernard.
On l'appelait le doyen. Au bout de 31 ans de bons et loyaux services à la Cour suprême et atteint par la limite d'âge, 75 ans, Celso de Mello vient de tirer sa révérence. Chose rare, il était parvenu à s'attirer le respect, pour ne pas dire la sympathie, à droite comme à gauche. Et pourtant, les 15 dernières années ont été dominées par les scandales de corruption, la condamnation de l'ancien président Lula et l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Sa dernière décision aura d'ailleurs été de forcer le président Bolsonaro à comparaître en personne dans une affaire d'ingérence dans la police fédérale. Jair Bolsonaro avait promis de nommer à sa place un magistrat terriblement évangélique, entre guillemets, pour récompenser ses alliés sur les terrains à la fois religieux et politiques, mais son choix s'est finalement porté sur Cassio Marques, un avocat proche du centre conservateur, devenu l'ossature de la nouvelle majorité que le président tente de former au Congrès, non sans promettre de nommer un évangélique à la Cour suprême dès l'année prochaine. Martin Bernard, Sao Paulo, RFI.
Reportage à présent aux États-Unis. Il y a 7 mois, jour pour jour, Breonna Taylor, une jeune femme afro-américaine de 26 ans, était abattue dans son appartement par la police de Louisville, au Kentucky. La police qui pensait trouver alors chez elle une cache de drogue. Une affaire qui, au même titre que le meurtre de George Floyd, est devenue un symbole des violences policières aux États-Unis. D'autant que le jugement rendu il y a moins de 2 semaines ne satisfait pas les manifestants. Des manifestants qui occupent jour et nuit une place du centre-ville de Louisville depuis maintenant plus de 4 mois. Reportage Carlotta Morteo.
Qu'il pleuve ou qu'il vente, cela fait 138 jours qu'ils sont là et ils comptent bien y rester.
Ça, c'est le visage de tous les gens qui ont été impliqués dans cette affaire, dans ce système corrompu qui fait qu'elle a été assassinée chez elle et qu'on n'a toujours pas obtenu justice.
Sur la place Jefferson Square, en plein cœur de Louisville, des gens viennent tous les jours déposer une bougie, une fleur, un message en la mémoire de Breonna Taylor. C'est aussi ici que l'on vient acheter son t-shirt, son bracelet ou son masque, tamponné Black Lives Matter, pour financer la cause et porter partout les couleurs noires du mouvement.
Oui, toutes sortes de gens m'achètent un petit quelque chose, mais je dois t'avouer, surtout les blancs. Et ça m'a étonné au début, mais c'est génial. Tout le monde nous soutient. J'ai dû réimprimer des t-shirts au moins 50 fois. Ça ne s'arrête pas.
Marciala Horn, fière habitante de Louisville, tient son stand sur la place depuis le premier jour de la mobilisation.
Je n'arrive toujours pas à croire ce qu'il se passe. Le tribunal est juste de l'autre côté de la rue. La prison municipale est juste là. Jamais je n'aurais pu imaginer que les autorités se seraient barricadées et nous laissent dormir là. Ils ne nous disent rien, ils ne nous embêtent pas. C'est ce dont on a besoin. Et c'est pour ça qu'on est toujours là après plus de 100 jours, pour essayer de faire comprendre à tous, de bien faire entrer dans la tête des gens que toutes les vies comptent, mais qu'on a quand même l'impression que nous, les Noirs, on est souvent visés par la brutalité policière, encore et toujours. On est en 2020 et l'impunité continue.
Depuis le jugement, il y a beaucoup moins de monde qu'avant, paraît-il. Mais ils sont toujours au moins une trentaine à se relayer tous les jours. Une présence essentielle, selon Jason, qui tient aujourd'hui le stand de hot dog servi gratuitement ou sur participation libre.
Les procédures policières vont être réétudiées. Une action en justice doit déterminer bientôt si certaines pièces du dossier peuvent être rendues publiques. Donc je pense que la pression continue est une bonne stratégie.
Pantalon moulant, veste dorée, il porte une casquette sur laquelle est écrit « Depuis 1969, les gays et les blacks, ensemble », en référence aux liens historiques qui unissent les luttes noires et homosexuelles. Si l'ambiance est certes conviviale, même si un peu chaotique, c'est aussi pour beaucoup un lieu d'expérimentation du militantisme. Des chants, des slogans ont été inventés, tout le monde les connaît et les chante lors des marches qui ont lieu tous les week-ends depuis bientôt 6 mois. Un grand black au look de rappeur s'active pour rassembler ce petit monde en vue de tourner une énième vidéo qui sera postée sur les réseaux sociaux. Il s'appelle Christopher Lewis et il s'est donné une mission.
Peu importe le nombre de personnes qui sont ici sur place, ce dont il s'agit, c'est de pousser les gens à aller voter pour changer les choses, changer les lois. On a besoin d'égalité, on a besoin d'un système éducatif plus juste. On a besoin que les violences policières discriminatoires et injustifiées s'arrêtent. Il faut que les gens s'éduquent à la chose publique. Parce que ça ne sert à rien de protester si les gens ne font pas usage de leur droit de vote.
D'autant qu'une très grande majorité des manifestants sur cette place sont des jeunes. Certains ont à peine 20 ans. Ils voteront pour la première fois cette année. Mina Losseur, blondinette au visage de poupée, vient ici 2 à 3 fois par semaine, alors qu'elle n'avait jamais milité avant.
Moi, je ne me suis jamais sentie discriminée, contrairement à beaucoup de gens ici. Ceux à qui j'ai parlé, qui sont afro-américains, ont toujours eu peur des flics. Ils n'étaient même plus choqués de ce qu'il se passait, alors que pour moi, c'est inconcevable. Je n'ai jamais ressenti ça, et ce n'est pas juste qu'ils aient à le subir. Donc je considère que c'est mon devoir de me battre avec eux.
Mina juge donc les candidats à la lumière de leur engagement pour l'égalité. Elle votera Joe Biden et surtout sa colistière.
Il fallait voir le discours de Kamala Harris l'autre jour. Elle a parlé avec la mère de Breonna Taylor. Elle est venue ici, elle veut que justice soit faite. Et c'est ça qui compte le plus en ce moment.
Les divergences politiques existent au sein du mouvement et beaucoup préfèrent ne pas se prononcer. Et puis, il y a quelque temps, une milice armée jusqu'aux dents, que certains qualifieraient de suprémacistes noirs, sont venues ici et leur discours très radical a quelque peu semé la discorde dans les rangs. Mais le message qu'on veut absolument promouvoir, c'est celui de l'unité.
Je pense que nous, les gens de Louisville, qui sommes d'ici, nous sommes unis, on fait partie de la même communauté, on est comme une famille.
Pour dissuader quiconque voudrait à nouveau troubler la paix, les manifestants de Louisville sont protégés par une milice armée interraciale, justement.
Je suis équipé de mon gilet pare-balles, mon fusil. Je fais partie de la garde des pharaons. Il s'est passé beaucoup de choses ici. On est là pour surveiller, s'assurer que personne ne veut faire de mal à tous ces gens. Les bigots, les racistes, la police, n'importe qui.
Si la mobilisation a été très pacifique et inclusive dans l'ensemble, il y a bien eu des violences, des morts dans le rang des policiers et surtout des pillages en marge non seulement des premières manifestations au mois de mai, mais à nouveau il y a 2 semaines après la décision de justice controversée sur la mort de Breonna Taylor. Des images d'émeutes retransmises sur toutes les chaînes nationales qui ont choqué l'opinion. asphyxié le commerce du centre-ville et visiblement mis dans l'embarras les candidats en lice pour le poste de sénateur du Kentucky aux prochaines élections. Lundi soir, l'actuel leader de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, et sa concurrente démocrate, qui a fait carrière dans l'armée, Amy McGrath, bottent en touche.
Do you think justice was done, Senator McConnell?
I don't have much tolerance for violence and looting.
Il regrette une tragédie humaine, se désole plus ou moins des injustices raciales dans le pays, mais condamne surtout les violences et insiste sur la nécessité de respecter la police. Depuis, sur la place Jefferson, face aux télévisions locales, les leaders du mouvement Black Lives Matter s'efforcent de mettre en avant des cas de bavure policière qui concernent des Blancs.
Quand j'ai rencontré cette maman dont le fils a été tué sans raison par la police, j'ai considéré qu'il était de mon devoir de médiatiser son histoire. En général, je parle au nom des Afro-Américains parce que, bon, je suis noir, et puis parce qu'il y a évidemment une différence de traitement en matière de violence policière. Mais nous sommes tous ensemble concernés en tant que communauté.
À Louisville, la mort de Breonna Taylor a provoqué un éveil des consciences largement partagé et le mouvement Black Lives Matter a certainement politisé un grand nombre de jeunes dans toute leur diversité. Mais malheureusement, sur les chaînes des télévisions nationales, l'image qui va probablement rester de Louisville pour de nombreux Américains, c'est celle d'une cité à feu et à sang, minée par un regain de tension raciale. Carlotta Morteo, Louisville, RFI.
Le journal de l'Outre-mer.
Et nous sommes à présent avec Tiziana Maron sur RFI à la une de votre journal aujourd'hui. Tiziana, la situation est inquiétante en Martinique concernant la progression du coronavirus.
Oui, la semaine dernière, 413 nouveaux cas ont été enregistrés dans le département. Le nombre de cas positifs par rapport au nombre de tests réalisés est en hausse, plus 13%, alors que le seuil d'alerte est de 5%. Une inquiétude de plus, la pénurie de consommables pour les tests PCR. Les laboratoires de Lille tirent la sonnette d'alarme. La réalisation des tests est sérieusement menacée. Les précisions de Pedro Monerville de Martinique la Première.
En pleine épidémie de coronavirus, où les chiffres sont à la hausse, c'est une véritable épine pour les professionnels de santé. D'ici une semaine, si rien n'est fait, les tests PCR sont menacés. Tout cela à cause de la forte pression auprès des fournisseurs au niveau mondial. Résultat, ce sont les petits pays qui trinquent. Ils sont pénalisés en approvisionnement de consommables. Kiarash Goldar, responsable du labo Biolab au Robert.
De façon globale, nous priorisons déjà les patients puisque les recommandations nous font part de prioriser et d'accepter en premier lieu les patients symptomatiques, les patients contacts, donc les cas contacts, les professionnels de santé. Néanmoins, quand une personne se présente et qu'il est symptomatique, on essaye de le prélever. Nous sommes vraiment très pénalisés par ce manque d'approvisionnement.
Ce contretemps, s'il n'est pas régularisé rapidement, va contraindre les laboratoires à transférer les demandes de tests dans l'Hexagone, avec des délais d'attente de résultats qui risquent d'être longs.
Et dans cette crise sanitaire, toujours pas de cours de sport dans les établissements scolaires de l'Académie de Guyane. Les élèves des quatre collèges et lycées cayennais se sont réunis hier pour faire part de leur agacement. Et c'est la fin de cette édition. Bonne journée.
Merci beaucoup Tiziana Maron pour toutes ces informations en direct sur Radio France Internationale. La mise en onde aujourd'hui était assurée par Claude Battista, rédaction en chef Sylvie Noël. Je vous retrouverai demain derrière ce micro. Adrien vous salue bien et à très vite. Au revoir.